certains que Picasso, qui en savait certainement un bout sur ce que c'était gratté, hein, raté. Je fais un tableau et c'est raté, mais par contre, personne ne le voit. Nous, on est ravis. Je sais pas que personne ne le voit d'ailleurs, on est ravis. C'est un tableau, c'est un Picasso, c'est magnifique. Il rate vachement bien, bon. Mais c'est, pour lui, c'est raté. Bon. Alors, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est raté. Et, mais qu'il y a mille façons de rater, qu'il y a des manières beaucoup plus intéressantes de rater que d'autres. Bon. Donc voilà, ça me paraît. Il faut arriver à trouver le style, le discours pour expliquer ça aux générations futures, parce qu'apparemment, les générations encore aujourd'hui, on est dans un monde où on arrive à nous faire un discours idéologique, soi-disant sans idéologie, dans lequel il est question de réussir, de continuer le struggle for life, la compétition, enfin le massacre généralisé, les modèles animaux, le brame du cerf, regardez, vous avez même ça chez Freud, avec Totem et Tabou, vous avez struggle for life, c'est Darwin, vous avez Hegel, la lutte du maître et de l'esclave, enfin, de qui se moque-t-on, quoi, je veux dire, que ça a eu une importance du fait éthologique comme structure imaginaire dans la culture occidentale jusqu'à l'époque la plus récente, et ça continue encore, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, si on prétend être sérieux, je suis sidéré que le désir soit méconnu, soit pour les uns c'est la résilience, regardez c'est Cyrulnik qui fait un succès avec la résilience, une catégorie éthologique, ou bien la compétition, qui serait, paraît-il, ou naturelle, ou je ne sais pas quoi, peut-être les titans qui se battent, c'est peut-être divin aussi, ou la compétition. Alors que le désir est quelque chose qui est certainement le ressort, et comme le disait Karl Marx, quand il définit le symptôme, en disant le symptôme c'est un ancien système de production qui survit dans un nouveau, il ajoute, dans la phrase suivante, il dit... Et plus nous connaîtrons l'anatomie humaine, mieux nous connaîtrons l'anatomie du singe. Ça veut dire, je vais bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on veut lire les anciens, il faut étudier le symptôme d'aujourd'hui. Vous comprenez, si on veut faire de la philologie, il ne faut pas attendre comme certains qui vont aller sous prétexte que Léo Strauss les invite à lire les textes anciens. Léo Strauss a raison. Mais Léo Strauss, regardez aussi, le libéralisme actuel fait de Léo Strauss un héros. On le traduit maintenant, les gens le lisent en cachette, sans le citer. Hein. J'ai même lu un livre contre France Fanon, incroyable, qui est une erreur de Léo Strauss, mais c'est pas lui qui l'a écrit. On l'a écrit à l'époque présente, parce que Léo Strauss, quand il explique le nihilisme du nazisme, il l'explique par l'idéalisme allemand. Hein. Et il dit que la formule de Léo Strauss, en 1941, il a dit ça dans un discours parlé, conférence en 41, il explique que il dit, mais ne croyez pas que Hitler est un sauvage, c'est quelqu'un de civilisé. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Il est en train de nous expliquer qu'il y a l'idéalisme allemand et le mécanisme anglais, et que les idéalistes allemands sont opposés au mécanisme anglais, et que si le monde devient mécanique et industriel, il faut mieux devenir nihiliste et tout détruire. Et autre chose explique ça, et c'est ça qui lui fait dire que les nazis sont civilisés. Mais moi, c'est pas qu'ils soient civilisés ou pas civilisés, que ce soit les enfants d'un idéalisme allemand et d'une culture très développée, ça ne m'étonne pas. Ça peut ne pas me surprendre du tout. C'est pas simple comme raisonnement, mais c'est pas. Non. Mais surtout, ce qui m'étonne, c'est que lui, Léo Strauss, vous voyez, en 41, Lévi-Strauss n'avait pas encore écrit la pensée sauvage. Il dit pas, d'abord, Hitler est un type civilisé, il dit, Hitler n'est pas un sauvage. Vous voyez ? Moi, je trouve ça extraordinaire que je trouve ça extraordinaire. Je pense que Léo Strauss est un intellectuel, un lecteur et un excellent commentateur. Et je ne fais pas le reproche à Léo Strauss, mais je suis obligé de constater que dans les années 40, 41, dans les années 30, on parlait comme ça. Moi, ça me choque parce que je suis quelqu'un qui est commencé à lire dans les années 60, hein, et que Léo Strauss était déjà présent, il a écrit la pensée sauvage. Je ne pense plus qu'on puisse parler. Regardez, Le Gendre aussi dit ça. Regardez, Le Gendre, il écrit « Nous sommes des sauvages ». Ça devrait être un compliment, « Nous sommes des sauvages », si on lit Lévi-Strauss. Non, moi, je pense que c'est un compliment d'être un sauvage, au sens de la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses comme ça, assez étonnantes, concernant la façon dont on ne se pose pas la question du fait que, je vous dis, moi j'en arrive à me poser la question comment la raison elle-même, et pourquoi la raison ne serait pas quelque chose qui aurait aussi une face abjecte, une face qui nous dérange, hein. Il faudrait peut-être aller jusque-là, puisqu'il y a un rabaissement de la vie sexuelle, hein, chez l'homme, dans l'espèce humaine, on en parle mal. Moi je pense qu'il y a un rabaissement de la logique de la raison. C'est une question que je me pose quand je vois même les difficultés des logiciens du 19e et du 20e qu'on peut lire rétroactivement et qu'aujourd'hui encore on fait passer Lacan pour un extravagant, hein, c'est un mot que j'ai trouvé d'une manière ironique chez Castel, Pierre-Henri Castel. C'est très amusant, il parle de la manière extravagante, il dit ça explique peut-être la manière extravagante dont Lacan fait de la linguistique et des mathématiques. Mais qui est extravagant? Bon, Lacan, il ne se prend pas au sérieux, peut-être comme il faut, mais je trouve que sa manière n'est pas excessivement extravagante. Elle est au contraire extrêmement, plus étroite d'acuité. Et l'acuité devient extravagance, ou chose désagréable, ou même, n'est-ce pas, quelque chose qui peut paraître douteux, hein, et qu'on va même réprouver. Donc voilà le genre de questions moi, auxquelles j'aimerais bien qu'on arrive, vers lesquelles je pense qu'il faudrait avancer avec Freud et avec Lacan pour se rendre compte que on défend mal la psychanalyse si on cherche simplement à faire le procès de ce petit monsieur Onfray. Il est un moraliste, mais en face de lui, il a aussi des moralistes, et tous ces moralistes parlent entre eux, finalement, se disputent, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi c'est si difficile. Pourquoi c'est si difficile pour Freud, pour Lacan, et c'est pour ça qu'ils ont même ils ont raté, ils se sont trompés, ils se sont repris, hein. C'est ça qu'il faut enseigner. Hein. Et comment doit-on faire la même chose si on veut être un jour analyste, peut-être, mais d'abord analysant. L'analyste, c'est un analysant, et il le reste. Alors j'ai trouvé justement qu'à propos de la répétition et de ce qui est l'objet, ce qui reste l'objet principal de ce cours. J'ai trouvé la chose suivante que je vais vous lire, c'est la première page de la contribution à la vie, à la psychologie de la vie amoureuse. Hein. Un type particulier de choix d'objet chez l'homme. Vous savez, Lacan, quand il est dans les quatre concepts qui commencent à traiter la pulsion, les quatre concepts fondamentaux, il l'a pris dans les premières pages du texte de Freud qui s'appelle Pulsion et Avatar, Destin de la pulsion. Texte qui fait partie de la métapsychologie 1915. Bon. Dans les premières lignes de Freud, souvent dans des articles, il dit des choses qu'on ne relève pas suffisamment. Je vous donne un exemple. Hein, donc, à mon avis, ce passage de Freud vous donne un éclairage sur ce qu'on va appeler l'au-delà du principe du plaisir. De l'autre côté, c'est pas l'au-delà. L'au-delà, c'est ce qu'on a traduit. On a traduit par au-delà, massage en espagnol. Ça donne son petit goût de transcendance, sa petite couleur philosophique. Mais il s'agit, dans Freud, il n'a pas écrit Das, Jean de Seyd, mais il a écrit Jean de Seyd, c'est-à-dire outre, passons outre Atlantique. Hein, Jean de Seyd, Atlantique, c'est ça, c'est outre, de l'autre côté, c'est pas au-delà. Alors voilà ce qu'écrit Freud. Nous avons jusqu'ici laissé au poète le soin de nous dépeindre les conditions déterminant l'amour. Il le met ça aussi entre guillemets. D'après lesquels les hommes font leur choix d'objet et la façon dont ils accordent les exigences de leur fantasie, avec la réalité. Là, faites attention, hein, c'est pas du tout le mot fantasme, justement, de Lacan, fantaisie chez Freud. Hein, parce qu'il n'y a pas de théorie du fantasme chez Freud. Hein, il y a des éléments d'une théorie, d'une doctrine du fantasme, hein, mais il n'y a pas encore. Freud, c'est justement son symptôme pour Lacan. Freud, il a besoin de la réalité psychique. C'est ce que explique Lacan. Et chez Freud, vous avez la réalité, et comme Freud est très prudent, parce qu'il sait qu'il avance dans un domaine justement où on va l'insulter et le détruire, donc il est prudent, il dit, oh, il reconnaît, il y a là la réalité, et puis il y a la réalité psychique, dit Freud. Et cette réalité psychique, ça lui permet justement de présenter sa doctrine. C'est parce qu'il dit, la réalité psychique, encore, peut-être c'est pas la réalité, mais elle présente un intérêt parce qu'elle comporte un noyau de vérité historique. Donc, moi, je tiens que Lacan, il va faire sauter cette problématique, mais Ça va apparaître seulement d'une manière tardive dans le symptôme, quand il va remplacer la psychose de Schreber et le ratage de Schreber réparé par Freud, par le ratage du nœud propre borroméen, comme du nœud propre qui est le nœud trèfle, qui est un borroméen détruit, et qu'il va comparer avec le borroméen de trois rangs. Bon, donc ça c'est le rapport du symptôme au symptôme. Là, Lacan nous parle de Freud, de la théorie de la psychose de Freud. Donc fantaisie et fantasme, vous ne les confondez pas, parce que chez Lacan, il y a une théorie du fantasme, il y a une écriture du fantasme, hein, c'est ce que je vous propose d'étudier ce mois-ci.
C'est-à-dire, on a déjà vu qu'on pouvait lire, grâce au disque que je vous ai montré avec leur fond,
on pouvait lire cette formule différemment qu'on n'avait jamais lu auparavant, hein, grâce à la figure que j'ai dessinée,
que j'ai numérotée là, avec la lettre delta. Hein. Vous avez deux ronds qui sont dans l'intersection, ici.
Hein. Et vous avez donc les couleurs qui se répartissent
ainsi. Si vous avez du rouge ici. Vous avez du rouge là, dans le trou, qui est dans la partie verte, qui fait apparaître le rouge. Et là, vous avez du vert ici, dans le grand disque vert, vous avez un grand disque vert. Hein, vous avez la couleur verte qui apparaît là, dans le trou, qui est dans le disque rouge. Et vous avez, n'est-ce pas, une troisième couleur qui est ici, et l'intersection, la superposition du vert et du rouge, ça donne, dans ma chromatique un peu bizarre, ça donne du bleu. Bon. Donc, ça c'est S, ça c'est A', et S barré, c'est ce qui est rouge. Et puis, vous voyez que ce S barré, ici vous avez A, qui est le trou dans S. Donc, l'autre terme du fantasme, c'est dans le manque de sujet. Hein, où on retrouve un élément de l'autre, parce que ici ça s'appelle grand A. Donc le poinçon, il indique que le sujet barré, hein, regardez, le sujet barré, c'est la partie S et A', et le A qui les coupe en deux, qui les sépare, c'est le fait d'être ici dans cette zone qui est une zone intermédiaire entre les deux, entre le sujet et la partie retrouvée de la répétition. Cette partie retrouvée, je vous montrerai comment dans l'aliénation, cette partie recherchée et retrouvée ici, comme pour l'autre d'ailleurs, elle a été perdue par l'aliénation. Lacan le dit explicitement dans Position de l'inconscient, c'est que c'est l'aliénation, c'est la partie perdue dans l'aliénation qui fait retour dans la répétition. Alors, je continue la lecture de ce texte. Il dit donc que ce sont les poètes, nous laissons les poètes qui décrivent, n'est-ce pas, le mieux, les conditions déterminant l'amour, hein, les choix d'objets et la façon d'accorder les exigences des fantaisies à la réalité. Et, de fait, les poètes ont des qualités leur permettant de venir à bout d'une telle tâche. Hein. Vous vous souvenez, quand il a écrit son texte Freud sur... qui est dans... chez Gallimard, c'est publié dans Psychanalyse appliquée, mais c'est un très beau texte, c'est un texte très important, dans lequel il commence comme ça en disant, mais la psychanalyse ne peut rien dire d'une chose, c'est comment les artistes, les poètes trouvent le moyen de décrire. On peut se poser la question de la manière dont ils décrivent, de la raison pour laquelle ils décrivent la vie amoureuse et la vie sexuelle, mais on ne sait pas d'où ils sortent, voilà, d'où ils sortent leurs thèmes, dit Freud. Hein. Là, il dit, hein, et de fait, les poètes ont des qualités leur permettant de venir à bout d'une telle tâche. Avant tout, une fine sensibilité qui leur fait percevoir les mouvements cachés de l'âme d'autrui. Et le courage de laisser parler leur propre inconscient. Bon, voilà la position de Freud. Mais il dit bien, on ne sait pas, pas question de faire la psychobiographie des poètes, comme le dit Lacan dans son texte sur Duras, hein, c'est de la goujaterie. Dans ces matières-là, ce qu'il faut, dans le psychanalyste, il ne doit pas faire le psychologue, il doit suivre. C'est pour s'instruire. c'est tout à fait une, c'est lire, c'est apprendre, s'apercevoir comment font-ils. Comment font-ils, c'est ça qui nous instruit, parce qu'il n'y a pas lieu de faire de la psychologie avec ça. Bon. Alors, comment continue donc laisser parler leur propre inconscient, les poètes. Mais du point de vue de la connaissance, quelque chose vient diminuer la valeur de ce qu'ils nous communiquent. Les poètes sont tenus de provoquer un plaisir intellectuel et esthétique, ainsi que certains sentiments déterminés. Aussi ne peuvent-ils représenter la réalité telle qu'elle sans l'avoir modifiée. Ils doivent en isoler certains fragments, détruire des rapports gênants, tempérer l'ensemble et combler les lacunes. En outre, ils ne peuvent montrer que peu d'intérêt pour l'origine et le développement des états de l'âme qu'ils décrivent sous une forme achevée. Dès lors, n'est-il pas inévitable que la science, avec sa main plus lourde, et pour un plaisir esthétique moindre, s'occupe de ces sujets qui est élaboré. Alors quand Freud parle de la science, hein, on peut se permettre d'entendre qu'il est en train de parler de la psychanalyse, hein, parce qu'on va voir que ce dont il est question, ce n'est pas la science qui s'en occupe. Hein. S'occupe de ces sujets qui, élaborés par les poètes, enchantent l'humanité depuis des millénaires. Ces remarques peuvent servir à justifier notre intention de soumettre la vie amoureuse elle-même à un traitement rigoureusement scientifique. La science ne constitue-t-elle pas le plus parfait renoncement au principe du plaisir dans notre travail psychique, dont notre travail psychique soit capable ? Ben, je vous propose de lire dans cette demi-page là, que je viens de vous lire, l'autre côté du principe du plaisir. Même il évoque à la fin, dans la dernière phrase, il parle exactement du renoncement au principe du plaisir. Vous avez là la logique qui est celle de l'au-delà du principe, qui n'est pas au-delà, c'est bien pas au-delà, c'est de l'autre côté du principe du plaisir. Vous avez un côté où les poètes vont, hein, en cherchant à faire plaisir, vous parler de choses tout à fait sérieuses et considérables, et avec un certain succès. Il peut y avoir dans l'œuvre du poète une part de vérité, même une part d'observation et de très grande finesse, hein, peut-être bien meilleure que chez ceux qui se présentent cliniciens. Hein, moi, je l'ai toujours, hein, pour la diction, si vous voulez, une indication clinique, lisez Shakespeare. Hamlet parlant à sa mère. Hein. Dis-lui non ce soir, demain ce sera plus facile. Vous voyez, c'est plutôt chez Shakespeare qu'on va trouver ce genre de choses. Pas dans les livres de psychologie, ni même de psychanalyse, souvent. Bon. Donc là, vous voyez que les poètes nous apportent ici une contribution, mais comme le dit Freud, ils sont obligés, n'est-ce pas, de. D'abord, je ne sais pas s'il faut s'intéresser à l'origine, hein, mais lui, Freud, il s'intéresse à l'origine et au développement des états de l'âme, qu'il décrive sous une forme achevée. Bon. Mais vous voyez bien que dès lors, n'est-il pas inévitable que la science, avec sa main plus lourde et pour un plaisir esthétique moindre, ben voilà, on est de l'autre côté du principe du plaisir. Il faut aussi avoir ce type d'activité. Et vous avez ça dans le cauchemar. Donc, je vous fais remarquer que c'est dans un texte qui apparemment n'a, de Freud, ça, c'est le lien, mais qui n'a apparemment n'a rien à voir, l'un n'étant pas l'explication de l'autre, pas, et bien vous trouvez là une indication donnée par Freud lui-même de ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui serait l'autre côté du principe du plaisir. C'est-à-dire que vous avez un style d'explication par le poète, par l'artiste, et que vous avez un style d'explication par la science. Encore une fois, même malgré sa main très lourde, je pense qu'il s'agit de la psychanalyse dans ce cas-là. Hein. Mais que les deux façons de présenter la vie amoureuse, hein, vont présenter deux côtés qui peuvent même être complètement opposés. L'un étant fait pour plutôt plaire et séduire, et l'autre plutôt pour donner des raisons qui ne font peut-être pas plaisir. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être le chemin vers la réflexion qu'on pourrait se faire d'une logique, et même d'un rabaissement de la logique chez l'homme, qui fait que si la logique se met à traiter de choses, si la raison se met à traiter de sexe, par exemple, le docteur ou le prêtre peuvent faire ça, mais il ne faut absolument pas que ça tombe dans le domaine public, il faut le dire en latin. Et donc, si maintenant on le dit en théorie des ensembles, surtout que la théorie des ensembles s'est enseignée en sixième, les enfants risquent de comprendre de quoi il s'agit, mais les parents non, d'ailleurs. Donc, ça devient extrêmement scabreux. On n'est pas loin des reproches délirants que nous connaissons aujourd'hui de cette grande épopée de la pédophilie délirante, hein, parce qu'on confond les pédophiles avec les pédophiles fous. Hein, il est bien évident que la pédophilie est quelque chose d'extrêmement répandu, même nécessaire ne serait-ce que pour élever ses propres enfants ou être éducateur, s'occuper des enfants, mais qu'il y a une marge dont personne ne parle, c'est le passage d'un choix d'objet, d'un investissement qui existe et qui est présent si on est honnête. Hein. Et moi, je vous promets, mes enfants, je les adore. Je les adore. Les autres, moi, je m'emmerde. Les enfants ne m'intéressent pas parce que moi, je ne suis pas pédophile. Mais je vous promets qu'avec mes enfants, j'adore mes enfants. Mais physiquement, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir des enfants. Bon, je ne dis pas que c'est une obligation, mais c'est une expérience formidable, si ça se trouve. Eh bien, il y a une différence quand même entre cette passion qu'on peut avoir pour les enfants, ou ses enfants, ou d'autres enfants, et puis le fait de penser qu'on est un cas intéressant parce qu'on présente quoi, un spécimen un peu particulier. Alors, n'importe qui est aussi intéressant qu'un autre. C'est pas la peine d'aller raconter sa vie dans les journaux et se faire désigner par la vanité publique. Le problème, c'est que ça devient fou si on n'est pas capable de dire que, comme Hamlet le dit à sa mère, ça te fait plaisir que Claudius il vienne t'embrasser dans le cou, il t'emmène sur le lit, dis-lui non ce soir, demain ce sera plus facile. Et ça, c'est Shakespeare, et ça, c'est ce qu'il faut dire quand on fume, quand on boit. Moi, je me suis remis à fumer des cigares, bon, je me dis ça tous les matins, dis non aujourd'hui, demain ce sera plus facile. Pour arrêter de fumer. Mais c'est comme ça qu'on arrête de fumer, quoi. De boire, de manger. Bon. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas ça. Et qu'il faut tenir compte de ce facteur que Lacan a décrit dès 1948 dans les propos sur la causalité psychique. Bon. Alors, voilà ce que je voulais vous inviter à lire et à relire les trois petites contributions à la psychologie de la vie amoureuse donnée par Freud en 1910, hein, ça serait parti 1912, et le tabou de la virginité, ça vient en 1918. Hein, c'est réparti sur pas mal d'années, ça fait 8 ans. Je pense que ces trois petits textes ont une importance sans doute même plus grande que les trois essais sur la théorie de la sexualité, qui sont évidemment quelque chose à lire. Mais les trois essais sur la théorie de la sexualité, c'est vraiment une œuvre de médecin qui a fait. C'est pas Verdoclis, c'est Freud. Mais Freud, ça l'a conduit à quoi? Ça l'a conduit à la phase phallique. Il faut voir que la dernière édition, les 9 éditions des trois essais, hein, culminent, sont réécrites à chaque fois, et culminent en 1922. Freud publie pour la 9e fois les 3 essais sur la théorie de la sexualité en 22, et dès 23, il écrit ce petit texte d'une page et demie qui s'appelle « L'organisation génitale infantile », et là, il rentre dans les il met au centre de ses préoccupations la phase phallique qui va le conduire au complexe de castration. Donc vous voyez que pour moi, c'est pas la répétition, le débridement des pulsions et l'instinct de mort. Tout ça, je ne dis pas du tout que c'est quelque chose de tout à fait intéressant à étudier d'une manière dialectique dans le texte de Freud, mais c'est pas ça qui constitue la seconde topique. La seconde topique de Freud, et c'est ce que je ressors, ce que j'arrive à lire dans les écrits de Lacan dans ce séminaire, hein, Lacan, il a rompu avec Lagache en 57, il fait un rapport, il fait des remarques sur le rapport de Lagache. Il y a une rupture avec Lagache, il finit en disant, en mettant les premières formules de la sexuation de Lacan, il les écrit comme ça, hein, grand phi de petit a et grand a barré de petit phi. Hein, bon, on peut commenter ça, mais ça va très très loin d'un point de vue mathématique. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement lacanien, voyez-vous?
Un mathématicien, il aurait écrit ça comme ça, il aurait écrit x de alpha et grand A de petit x, vous voyez? La différence avec Lacan, c'est que quand il fait ce genre d'inversion entre le phi majuscule et le phi minuscule, le A minuscule et le A majuscule, il rajoute un truc qui nous emmerde.
La barre.
La barre. Il rajoute un truc, vous voyez, c'est bien équilibré, puis pof, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, voilà. Lacan, on pourrait résumer ça comme ça, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh bien, il y a peut-être quelque chose là-dedans, vous voyez.
Il n'a pas barré le fil, vous voyez. C'est ça, vous avez des commentateurs.
Ah oui, oui, à propos de la logique du fantasme, vous avez vu dans la logique du fantasme, attendez, c'est dans la logique du fantasme ou dans l'acte analytique qui donne des triangles? Non, non, c'est dans l'acte analytique. Vous savez comment il explique RSI avec des triangles? Il y a un mec un jour qui est venu me voir à la fin d'une conférence, vous voyez, là ici, il fait un triangle comme ça avec imaginaire, symbolique et réel. Vous connaissez cette leçon? Et puis il le met en abîme avec.
Ah, c'est pas mal.
Hein, c'est pas mal, bon. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il fait avec ça comme relation. Bon, il y a un type qui est venu me voir, c'est vraiment formidable, il avait écrit un article, il m'a fait cadeau de la revue. Il parlait là, il m'a dit, mais il est allé chercher de la revue dans sa voiture pour m'en faire cadeau et pour me dire que vraiment, ce n'est pas la peine que je m'ennuie avec des nœuds borroméens à trois ronds, parce que réel, imaginaire et symbolique, il suffisait de les mettre au sommet d'un triangle équilatéral et que Lacan l'avait fait et qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Moi, je trouve ça renversant. Bon, je vais pas obligé à le faire. Moi, je le fais. Bon, c'est sans doute que ça m'excite, comme disent certains, ça me satisfait, ça me fait jouir. Et puis, c'est vrai que c'est pas bien. Bon. Alors, c'est justement, peut-être que parce que ça me satisfait, c'est pas bien, puisque c'est pas dans le bien qu'on trouve sa satisfaction. C'est un raisonnement absolument imparable. Donc, le problème, c'est que je pense qu'il y a justement un côté répréhensible de la psychanalyse qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est de comment l'assumer, comme on dit, ou comment le reconnaître, hein, et puis en déduire une stratégie, une tactique, de se mettre à réfléchir.
Effectivement, je crois que c'est comme ce que je dis de la pédophilie ou de la psychanalyse, c'est absolument, ça dérange. Bon. Et donc le problème, il n'est pas d'en être fou, de vouloir nous faire une théorie qui rendrait les choses, je dirais, justement invivables. Elles sont invivables. Alors, je ne vois pas pourquoi, si on est en enfer, il faut en plus être triste. Vous comprenez? C'est quand même ça qu'il faut dire cliniquement quand quelqu'un vient se plaindre. C'est sûr que c'est l'enfer. Alors, vous me direz, il y a des gens qui croient que c'est l'enfer pour eux et pas pour les autres. Vous savez, la psychanalyse, ça vous guérit tout de suite de ça. Parce que quand vous voyez que des gens qui ont l'air comme ça, comme des fleurs, absolument d'avoir une vie délicieuse et charmante, ils ont dans leur vieux coffre et dans leurs armoires un certain nombre de choses asquerosas, enfin bien dégueulasses, comme tout le monde. Hein. Donc, arrêtons de gesticuler avec des gadgets comme ça. Il faut parler sérieusement. Moi, je pense qu'il n'est pas question de se payer de facilité. Et il faut reconnaître que tout ça est très difficile. Mais je vous dis, si c'est tellement infernal que si en plus on doit être triste, alors vraiment, il y a de quoi se flinguer. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus joyeux.
C'est pas que c'est pas grave.
Oui. Je peux poser une question?
Oui.
Là, les filles de A et A par les filles, c'est dans 57?
57. Parce la dernière page, l'avant-dernière page de du rapport Lagarche.
Il n'a pas apporté une petite A à cette époque-là.
Mais il est déjà, il est en gestation depuis. Écoutez, il a commencé avec l'objet transitionnel, c'est la même, c'est un peu avant même, c'est
on peut le prendre pour un petit
relation d'objet. Oui, oui, non, mais c'est le début. Écoutez, à propos du petit A, c'est comme tout. Vous savez, pour résoudre un problème de mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir si à partir des données, on ne peut pas déduire les conséquences, hein, et en général, ça ne marche pas du premier coup. Qu'est-ce qu'on fait? On suppose le problème résolu, et à ce moment-là, on cherche à avoir un modèle, une solution. Puis on ne marche pas, alors on repasse à la démonstration, puis on oscille entre les deux. D'accord? Bon. Tout le monde ne sait peut-être pas ça, mais ne croyez pas qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui vous pose un problème, et puis il est comme un calculateur, et puis il vous sort la solution, parce qu'il l'a calculée. il est évident que chercher à résoudre un problème, c'est une hésitation, c'est plusieurs tentatives différentes. Voilà, il y a plusieurs, il y a même beaucoup de nuances, n'est-ce pas, qui sont même assez difficiles dans certains cas à thématiser. Bon, et bien moi je vous dis pour le petit A, prenez-le comme ça. Je ne nie pas une seule seconde que le petit A de Lacan, c'est un travail considérable de Lacan au cours des années, à partir dès les premiers. Ça commence avec la relation d'objet. Dès qu'il a fait les psychoses, il commence dès l'analyse de Hans. Qu'est-ce que c'est l'analyse de Hans, relation d'objet? Il y a trois objets de la psychanalyse. Tout le monde répète qu'il y en a quatre. Moi, ça fait longtemps que j'ai écrit dans Luc, il y en avait trois. Il y en a quatre, c'est quatre objets d'induction, mais il y a trois objets. L'objet des phobies, l'objet fétiche, et entre les deux, l'objet conditionnel. Bon. Je me suis aperçu que... Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi, c'est Siboni, Dani, comment il s'appelle
Daniel.
Daniel Siboni, mais aussi un autre qui s'appelle
Jacques.
Non, c'est pas Siboni, c'est plus un Siboni, mais c'est du côté de tel quel.